Nous sommes en compagnie de la députée européenne Sylvie Goulard. Je ne vais pas vous demander une réaction sur ce que va dire Manuel Valls à 18h30, puisque vous seriez obligé de jouer les devins, mais sur ce que vient de dire Ludovic Piétenu. Rien ne se passe comme prévu, semble-t-il, aujourd'hui. Il y a de plus en plus de difficultés à prévoir l'issue des scrutins. On ne sait pas en réalité comment les peuples réagissent. Avez-vous l'impression qu'il y a aujourd'hui une élite déconnectée de la volonté et des décisions des peuples, Sylvie Goulard?
Vous savez, je ne sais pas si en 95, la victoire de Jacques Chirac était prévue. On a peut-être aussi un peu tendance à penser que ce qui nous arrive est toujours différent de ce qui s'est passé auparavant. Ce qui est très frappant dans votre propos, c'est l'existence de supports, de médias comme les chaînes d'information en continu, les tweets, qui n'existaient pas auparavant et qui, assurément, non seulement accélèrent le rythme, mais contribuent à la chute des gens. Moi, ça me frappe beaucoup que Renzi avait quand même fait campagne, il y a à peine plus de 2 ans, sur l'idée qu'il allait, je cite, « envoyer à la casse, la rotamazione, la classe politique ancienne qui était au pouvoir depuis trop longtemps, etc. » Et peut-être qu'en allant dans cette outrance verbale, en utilisant le tweet de manière extrêmement agressive pour objectivement assassiner son prédécesseur Enrico Letta, il a instauré une mentalité dont il est finalement lui-même la victime. Ça aurait fait rigoler Gottlieb, auquel je veux rendre hommage, parce que j'ai toujours beaucoup apprécié les dessins de Gottlieb quand j'étais enfant, notamment les dingos dossiers. Et donc, voilà, je crois qu'il faut se garder de toujours penser que notre génération vit des choses différentes, à ceci près que la technologie est différente.
Vous n'êtes pas très renziste.
Non, parce que M. Renzi a essayé d'endiguer le populisme en reprenant son discours. Et je pense que justement, ça nourrit ce que vous disiez sur les élites et le peuple. D'abord, je vais vous dire, les élites font partie du peuple. Et l'élite vient du peuple. Je crois que c'est idiot d'opposer en permanence dans nos sociétés les gens. La vraie question, c'est est-ce que les élites méritent ce titre? Est-ce qu'on a des personnes qui sont capables, peut-être parce qu'elles ont eu la chance de faire plus d'études ou parce qu'elles ont l'accès à un certain nombre d'informations, de passer cette information aux autres et de les convaincre. Si ceux qui sont au pouvoir, par exemple, vis-à-vis de l'Union européenne, tiennent le genre de discours qu'a tenu Matteo Renzi pendant des mois, consistant à incriminer l'Union européenne, elle a ses défauts, l'Union européenne, on peut la critiquer, mais quand on est chef de gouvernement aussi, on peut aussi faire des propositions pour la changer. Il est à la table du Conseil européen. Donc c'est un peu facile. C'est un phénomène de bouc émissaire dans ce que ça a de plus sacrificiel. On choisit quelque chose, on tape dessus jusqu'à ce qu'on le mette à mort.
Vous dites que l'élite fait partie du peuple, mais il y a au moins un hiatus entre l'élite et le peuple. En tout cas, un hiatus possible, c'est tout simplement le niveau de rémunération, l'absence de précarité pour les uns et pas pour les autres. Ça, ce sont des conditions objectives, comme disaient les marxistes. Et donc, on voit bien qu'il ne peut pas y avoir nécessairement une même manière de regarder le monde lorsqu'on est dans une situation de précarité et lorsqu'on est, au contraire, extrêmement confortable dans l'existence, Sylvie Goulard.
Non, mais bien sûr que certains individus sont des privilégiés par rapport à d'autres. Vous savez, je préside l'intergroupe de lutte contre la pauvreté du Parlement européen. Donc, la précarité, j'essaye de la voir d'aussi près que possible. Nous organisons régulièrement des rencontres dans lesquelles nous donnons la parole à des personnes démunies. Je ne nierai absolument pas les difficultés de tout un tas de ménages, de femmes isolées, à joindre les deux bouts, de personnes âgées, d'étudiants. Mais, cela dit, d'abord, il faut mettre ces sujets dans l'espace public. C'est important qu'au lieu de se lamenter contre les différences de rémunération, on s'y attaque concrètement. Quand par exemple le Parlement européen a limité les bonus des banquiers, je n'ai pas entendu beaucoup de journalistes s'en féliciter. On nous reproche tout le temps d'être coupés des gens. La seule instance à ce jour qui a imposé une limite sur les rémunérations, c'était le Parlement européen. Et je peux vous dire qu'à Londres, ils l'avaient remarqué, puisqu'il m'est arrivé de parler face à des gens dont on avait considérablement réduit les rémunérations. Ils n'étaient pas très contents. Donc, premièrement, il faut faire quelque chose pour les gens démunis. Deuxièmement, il faut absolument que ces sujets-là soient dans l'agenda des politiques. Mais personnellement, je crois beaucoup qu'il ne faut pas faire de la politique en opposant des groupes les uns aux autres. D'ailleurs, vous savez, il y a des gens qui vivent très bien dans des châteaux, qui ont des vies agréables et qui se déclarent les représentants du peuple. Donc il faut un peu arrêter aussi les sornettes.
Nous avons beaucoup parlé d'Italie et de ce référendum qui a eu lieu ce week-end avec vous, Sylvie Goulard. Nous sommes en ligne avec Patrick Moreau. Bonjour Patrick Moreau.
Bonjour.
Vous êtes politologue au CNRS à Strasbourg. Nous allons parler avec vous de l'Autriche et donc de l'issue donc de ce vote qui a eu lieu ce week-end avec une défaite de l'extrême droite, mais une défaite avec un score malgré tout assez élevé, 46% de voix, ce qui signifie que l'extrême droite conserve une assise électorale extrêmement forte en Autriche. Comment l'expliquez-vous ?
Bah, effectivement, bon, d'abord, l'élection von der Bellen, c'est une divine surprise parce que les derniers sondages internes que nous avions montraient une toute petite, une courte tête pour Hofer. Donc, il s'est passé un certain nombre de choses dans les deux derniers jours. Fondamentalement, il y avait trois groupes importants pour nous qui pouvaient faire la décision. C'était le comportement électoral des conservateurs, capacité de mobilisation de la gauche et le comportement des plus de 60 ans. Ces trois groupes ont réagi de manière, je dirais, positive, c'est-à-dire que les sociodémocrates se sont mobilisés pour von der Bellen, même s'il n'y a pas un très grand amour entre les sociodémocrates et les écologistes. Les conservateurs, là aussi, ont préféré la solution la moins pire. C'est très important lorsqu'on dans les sondages de sortie d'urne, c'est une dimension qui a joué un rôle important. Et troisièmement, le FPE qui avait fait beaucoup d'ouvertures en direction des personnes retraitées qui ont peur de l'avenir. Il y a un pessimisme collectif qui s'est installé en Autriche. Ça n'a pas fonctionné du tout. Donc, d'un côté, évidemment, vous avez un résultat très fort, c'est-à-dire que le FPE est depuis longtemps à peu près à 35% des intentions de vote depuis maintenant près de 2 ans. C'est le premier parti politique autrichien, mais il n'a pas réussi à faire sauter un certain nombre de verrous. Ces trois verrous, c'est les femmes. Ça a été un véritable désastre politique. Les jeunes femmes de moins de 29 ans ont voté à 70% pour von der Bellen. C'est quelque chose de très fondamental. Le deuxième groupe aussi, lui, qui a été désastreux, c'est celui des diplômés. C'est-à-dire qu'il n'y a que 17% des personnes titulaires d'un diplôme d'université qui ont voté pour Hofer. Mais effectivement, vous avez d'un autre côté toujours une emprise très forte du FPE dans ce que nous appellerions le quart monde ou le prolétariat, c'est-à-dire 86% des ouvriers ont voté pour le FPE. Vous trouvez plus le niveau de formation personnelle, c'est-à-dire la primaire, l'absence de diplôme, ces gens-là votent massivement pour le FPE.
Oui, ce qui est un clivage électoral important, avec également un effort du candidat d'extrême droite Norbert Hofer pour se respectabiliser au travers de différents clips, de différents éléments de langage. Est-ce une respectabilité de façade ou bien l'extrême droite autrichienne a-t-elle changé, Patrick Moreau ?
À la fois les deux. c'est toujours la même chose. Je crois qu'il est faux de croire qu'une seule stratégie puisse porter ses fruits. Je dirais que la respectabilité d'Hofer, d'abord, elle était d'abord personnelle, si vous voulez. C'est quelqu'un qui a eu un destin difficile, qui est un invalide à 100%, qui était en chaise roulante, qui a pu remarcher. Dans les sondages que nous avons effectués à la sortie des urnes, on s'aperçoit que les gens le trouvent en majorité plus proche des petits. Donc ça, de ce côté-là, ça a très très bien fonctionné. Mm-hmm. Mais il a capoté sur la question, par exemple, de la peine de mort. Il y a eu 2 jours avant l'élection un débat autour de sa prise de position pour ou contre la peine de mort. Il a dit qu'il n'était pas pour, mais on a retrouvé des traces, si vous voulez, qui disent autre chose. Donc ça lui a causé beaucoup de mal. Donc, encore une fois, vous avez un ensemble très complexe. Vous aviez un candidat relativement sympathique. Vous avez aussi un extraordinaire travail, je dirais, idéologique du FPE, qui est passé très, 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 très longtemps inaperçu. C'est-à-dire que vous avez d'un côté les partis démocratiques qui se vident de contenu, qui sont de plus en plus atones, si vous voulez. C'est ce qu'on parle de brouet froid. Et puis de l'autre côté, vous avez un parti politique qui tente de donner des réponses à tous les groupes sociaux. Mais ce qui est important de comprendre, c'est qu'il n'y a pas d'unité, si vous voulez, il n'y a pas une centralité d'une idée. On offre des modules idéologiques aux différents groupes sociaux. Et ça peut être complètement contradictoire. C'est-à-dire qu'on est à la fois libéral et puis partisan de l'interventionnisme.
Et oui, on voit bien effectivement ces assemblages. Une réaction, Sylvie Goulard, à ce que vient de dire Patrick Moreau.
Il y a un point qui m'a particulièrement intéressé à la fin de son propos, c'est quand il dit effectivement que la responsabilité est très largement dans les partis modérés. Et je crois que c'est vrai partout en Europe. Les partis modérés ont abandonné la défense, je dirais intelligente, pas aveugle, pas béate, mais de l'idéal européen, de ce qu'on peut faire ensemble. On manquait de faire des propositions, que ce soit en matière d'harmonisation fiscale, en matière sociale, en matière de défense des frontières, en matière de défense tout court. On a une espèce d'Europe qui végète. On l'a vu d'ailleurs pendant la primaire de la droite, et je crains que ça soit pas mieux pendant la primaire de la gauche, le sujet européen est évacué parce qu'il pose des questions délicates pour les candidats. Parce que quand vous devez changer d'échelle, vous ne pouvez plus vous positionner vous-même de la même manière. Donc je crois vraiment qu'il appartient à ceux qui ne souhaitent pas la montée, je dirais, de partis extrémistes. Je n'aime pas trop le mot de populiste, parce que, encore une fois, je n'ai pas le sentiment qu'il y a le peuple, et puis les populistes, et puis les autres. Non, il y a des citoyens adultes à qui il faut tenir un langage adulte. Et il est vrai, malheureusement, on le voit partout, que la jeunesse et le niveau d'éducation sont quand même aussi des marqueurs importants.
Pourquoi vous n'aimez pas le titre ou le qualificatif de populiste? Parce que l'on voit bien qu'il y a malgré tout une sorte de vague, et encore une fois, elle n'est pas uniquement européenne, on peut penser aux États-Unis, il y a une vague de partis qui utilisent les mêmes recettes, qui ont la même cible électorale, puisque ce que vient de dire Patrick Moreau sur le clivage en fonction du degré d'études, on observe exactement les mêmes choses aux États-Unis, où on voit que c'est moins le niveau de revenu que le niveau d'études qui a déterminé le vote ou non en faveur de Donald Trump. N'est-on pas entré dans un cycle populiste, comme il y eut un cycle libéral ou un cycle social-démocrate? Et dans ce cas-là, les partis modérés que vous représentez, pardonnez-moi Sylvie Goulard, mais seraient aujourd'hui en mal, en quelque sorte, de recueillir les suffrages des peuples.
Oui et non. C'est-à-dire, vous avez raison que ces phénomènes existent, il serait complètement idiot de le nier. En revanche, je ne crois pas que ces gens-là servent les peuples. Je pense vraiment que ce sont des personnes qui abusent les peuples. Ce sont des personnes qui essayent d'obtenir leur suffrage.
C'est possible, mais aujourd'hui, ils les recueillent.
Mais c'est bien pour ça que j'ai le droit de ne pas utiliser le mot populiste, si vous me permettez. On abuse les peuples, on leur fait miroiter des solutions à portée de main. Par exemple, le Brexit, on va récupérer 300 millions de livres pour les hôpitaux. Moi, je comprends que des gens qui ont du mal à avoir un rendez-vous chez le médecin se disent « bah tiens, pourquoi pas ?» Sauf que 2 heures après l'annonce des résultats, M. Farage faisait demi-tour là-dessus. De même qu'on fait miroiter des bienfaits de la fermeture des frontières, alors qu'on sait très bien que nos économies, donc des emplois chez nous, et y compris des emplois entre guillemets pour le peuple, dépendent de l'ouverture. Donc ces gens-là sont des personnes qui abusent le peuple, qui utilisent, encore une fois, des frustrations ou des souffrances qui, elles, sont bien réelles, à leur profit. Ce sont des gens qui veulent le pouvoir et c'est la seule chose qui les intéresse.
On va poser la question à un politologue, Jean-Yves Camus. Bonjour Jean-Yves Camus.
Bonjour.
Avez-vous l'impression que nous sommes aujourd'hui dans un cycle populiste en Europe et peut-être aussi ailleurs?
Écoutez, on a d'abord une nécessité urgente de définir précisément ce que veut dire le terme populiste, faute de quoi on va continuer à l'utiliser pour décrire des gens, Nicolas Sarkozy, Silvio Berlusconi, pourquoi pas Vladimir Poutine, Donald Trump, qui n'ont absolument rien à voir entre eux. Le populisme, c'est un style. C'est un style qui consiste à vouloir établir un lien direct entre le dirigeant et le peuple, en passant par-dessus les corps intermédiaires et la représentation nationale. Ça veut dire également, en termes modus operandi de la démocratie, qu'on favorise la démocratie directe au détriment de la démocratie représentative, puisqu'on pense que le monde se divise en deux. Il y a d'un côté le peuple, qui aurait naturellement la prescience du bien commun, qui saurait naturellement ce qui est bon pour lui, et puis de l'autre, les élites qui seraient naturellement dévoyées. Chaque député, du moment où il serait élu, trahirait ses promesses et trahirait ses mandants, et c'est autour de ça que l'idée populiste s'ordonne, et elle peut parfaitement se combiner avec une orientation politique dite de droite ou avec une orientation politique dite de gauche, voire d'extrême gauche. Ensuite, est-ce qu'il y a un cycle? Il y a avant tout un cycle d'affaiblissement idéologique extrêmement fort des partis, vous venez de dire modérés, d'autres disent traditionnels, en termes clairs, de la social-démocratie, du libéralisme et du conservatisme classique. Il y a un manque d'offensive idéologique. Il ne s'agit pas simplement d'expliquer que les partis populistes, souvent d'extrême droite, promettent au peuple des choses qu'ils ne pourront pas tenir une fois arrivés au pouvoir, ce qui est parfaitement exact, il faut le formaliser, il faut donner l'impression que le brouet froid dont parlait Patrick Moreau à l'instant reprend quand même un petit peu de consistance et un petit peu de vigueur.
Une réaction, Sylvie Goulard, par rapport à cela, sur l'incapacité des partis modérés aujourd'hui à formaliser une réponse véritablement convaincante pour les électeurs par rapport aux partis dits populistes.
Moi, je l'ai écrit depuis longtemps, j'en suis absolument convaincue. Si vous prenez l'Europe qui est mon rayon, effectivement c'est froid, la manière dont la plupart des gens parlent d'Europe. Ils oublient complètement certains des aspects qui font que, malgré tout, le projet européen reste un magnifique idéal. Ils oublient de défendre la liberté. Moi, je vais vous dire, c'est pas un manque d'idéologie pour moi, c'est un certain manque de travail de fond. Si vous voulez produire des solutions aujourd'hui dans un monde complexe, eh bien vous avez à être un peu plus modeste que le sont la plupart des politiques, à ne pas promettre aux gens la lune, à travailler et à travailler de manière transfrontière. C'est-à-dire que la solution d'un certain nombre de problèmes chez nous se trouve dans des négociations à Bruxelles, dans le fait de convaincre les Allemands, les Britanniques, etc. Donc nous sommes dans un monde qui amène les politiques à travailler différemment, ce qu'ils refusent. Et la complaisance qu'il y a dans les débats politiques nationaux où le miroir médias nationaux, responsables nationaux occupe tout l'espace est à mon sens l'un des vrais défis que les médias et les politiques ont à surmonter ensemble. Et je crois vraiment que c'est possible en plus.
Jean-Yves Camus, avec les différents mouvements dits populistes que l'on observe en Europe, on a parlé de l'extrême droite autrichienne, on pourrait parler du mouvement 5 étoiles en Italie, a-t-on affaire à des mutations de l'extrême droite, des mutations véritables, d'autant que certains partis s'estiment être de gauche, ou bien a-t-on affaire à des phénomènes politiques qui sont complètement inédits par rapport à ce qu'on a connu auparavant ?
Si c'est 5 étoiles, ça n'est pas un parti d'extrême droite. C'est une sorte d'ovni politique qui se rapproche assez de ce qui a sans doute été le premier parti populiste d'extrême droite de l'après-guerre en Italie, l'Uomo Qualunque. L'Uomo Qualunque, c'est l'homme normal, c'est l'homme du peuple, c'est monsieur tout le monde. Il y avait un parti qui portait ce nom-là, et le mouvement 5 étoiles, qui lui n'est pas d'extrême droite encore, qui prend des gens un petit peu partout, et surtout d'ailleurs des gens qui n'avaient pas d'engagement politique antérieur, c'est une sorte d'ovni politique. On a beaucoup de mal à caractériser, dont la gestion municipale, pour autant qu'on puisse en juger actuellement à Rome comme à Turin, n'est en rien une gestion d'extrême droite, mais avec un leader, Beppe Grillo, qui a de temps en temps, en plus de son style particulièrement outrancier, des saillies sur la question de l'identité, de l'immigration, qui sont tout de même effectivement un peu hors cadre.
Hors cadre, qui pourrait être considéré comme étant d'extrême droite, Sylvie Goulard opine du chef. Effectivement, le parti ne se dit pas comme étant d'extrême droite, mais tout son discours sur l'immigration et l'identité italienne le renvoie aux extrêmes droites européennes. Jean-Yves Camus, vous n'êtes pas d'accord ?
L'espace, le problème, c'est que en Italie, du moins dans le nord de l'Italie, l'espace de l'extrême droite est pris. Et il est pris par une Ligue du Nord qui a fait un tournant idéologique, là aussi, qu'on a mis longtemps à capter, qui consiste à abandonner le projet indépendantiste pour établir un État padanien dont personne ne voyait exactement à quoi il ressemblait, au profit d'une volonté de conquête du pouvoir en Italie, à Rome, autour d'un logiciel qui est assez proche de celui du Front National, avec lequel d'ailleurs des liens ont été établis, qui fonctionnent dans le cadre du Parlement européen et de l'Alliance européenne pour les libertés. Donc, Beppe Grillo, c'est autre chose. Encore une fois, dire que la maire de Rome, par exemple, est quelqu'un qui appartient à un parti d'extrême droite, honnêtement, c'est un petit peu compliqué. Elle ne tient pas, d'ailleurs, sur la question des immigrés, sur la question de l'identité, du tout même propos que son chef.
Un mot de conclusion, Sylvie Goulard, sur cette réponse à apporter aux partis d'extrême droite, aux partis dits populistes, et puis sur une situation globale de l'Europe qui semble en quelque sorte porter ces partis.
Non, l'élection de Trump a montré que le problème n'est pas seulement européen, même s'il y a une dimension très particulière dans l'Union européenne. Ce qui est frappant, c'est que ce qui a été dit dans cette émission, c'est que les jeunes, les femmes, les gens plus éduqués ont moins tendance à tomber dans ce piège. Et donc, il faut beaucoup d'humilité de la part des partis traditionnels et peut-être qu'ils s'intéressent un peu plus aux personnes démunies, aux femmes, et qu'ils encouragent de la mobilité sociale. Parce qu'encore une fois, la meilleure réponse au populisme, c'est qu'il n'y ait pas le peuple d'un côté et les élites de l'autre, mais que tous les gens de valeur dans un pays puissent arriver à exercer des responsabilités.
Merci beaucoup Jean-Yves Camus, merci Patrick Moreau et merci à vous Sylvie Goulard. Goodbye Europe, c'est le livre que vous avez publié aux éditions Flammarion. Vous restez avec nous